Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h. Charles Matin.
Pierrick Bonneau.
Bienvenue à tous sur RMC, il est bientôt 5h, très heureux de vous retrouver pour la dernière matinale de la semaine. Le week-end et peut-être les vacances approchent à grands pas pour certains et vous avez de la chance. Je vous donne le programme jusqu'à 6h dans 10 minutes. Le premier débat du jour, on va revenir tous ensemble sur les résultats de Total publiés hier. Le groupe pétrolier français a plus que doublé ses bénéfices nets au deuxième trimestre, plus de 5 milliards d'euros. Alors faut-il ou pas taxer les super profits ? L'entreprise Total doit-elle mieux redistribuer ses bénéfices? La remise de 20 centimes qu'elle propose à la pompe est-elle suffisante? C'est la question que je vous pose au 32-16 et sur l'appli RMC onglet Direct Studio. Appelez-nous dès maintenant. Venez réagir sur l'antenne d'RMC. À 5h40, on débattra d'un autre sujet, la sobriété énergétique. Les magasins vont tous devoir éteindre leurs enseignes lumineuses la nuit pour économiser l'énergie. C'était déjà obligatoire, mais pas partout. Et surtout, peu d'enseignes se plient à la règle. Alors faut-il davantage punir les commerçants récalcitrants comme le prévoit le gouvernement? Doit-on passer à la vitesse supérieure? Vous nous appelez au 32-16. Quentin vous attend.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Pierrick Bonneau.
Faut-il taxer les super profits des géants pétroliers comme Total?
C'est la question du jour sur RMC.
Vous êtes automobiliste, vous nous appelez au 32-16 ce matin. Qu'en pensez-vous? Total annonce des bénéfices records au deuxième trimestre et propose une remise de 20 centimes par litre à la pompe à partir de septembre pour tout le monde. Mais est-ce que c'est suffisant? Selon vous, le géant pétrolier devrait-il faire plus d'efforts, mieux redistribuer ses bénéfices face à la baisse du pouvoir d'achat? Faut-il tout simplement taxer les super profits? Le gouvernement a déjà dit non. Mais vous, qu'en pensez-vous? Le sujet fait débat dans les stations-service parisiennes, comme l'ont constaté Florian Chevalet et Lucie Rispal.
Taxer Total et ses bénéfices records, pour Amédie, c'est une évidence.
Il faudrait les taxer, bien les taxer même, je pense. Ils gagnent des milliards, mais ils ne font pas d'efforts pour aider la population par rapport au prix de l'essence.
Le géant pétrolier a quand même accordé une ristourne de 20 centimes d'euros par litre de carburant du 1er septembre au 1er novembre dans toutes ses stations-service. Pas suffisant pour Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.
Je crois que la majorité sociale de ce pays est très d'accord pour que Total puisse enfin contribuer à la hauteur de l'effort et de la souffrance qu'il y a dans notre pays. Nous devons faire comme beaucoup de pays européens, comme, s'il vous plaît, le FMI ou la Commission européenne le recommandent, c'est-à-dire taxer enfin ces profiteurs de crise.
À l'Assemblée, l'idée a été rejetée dans le cadre de l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. À la pompe, Maëlys, elle, souligne l'effort de Total.
On ne peut pas demander non plus tout le temps aux sociétés qui font des bénéfices, même s'ils sont très importants, de faire un effort énorme. Moi, je suis contente déjà qu'ils en fassent un.
Et puis économiquement, c'est indéniable, selon Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, la stratégie Total aura des conséquences immédiates et vertueuses pour les clients.
Il n'y a pas que Total qui vend de l'essence. On peut s'attendre à ce que la concurrence jouant, c'est bien connu en matière de distribution de produits pétroliers, les concurrents doivent regarder, les prix pratiqués par chacun. Celui qui fait une baisse de prix oblige les autres à faire le même effort.
Contacter la société Shell, 71 stations en France, explique ne pas pouvoir faire le même geste que Total au risque de vendre à perte.
Alors Total, justement, doit-il payer des taxes pour ses super profits, des taxes supplémentaires qui lui seraient appliquées pour compenser effectivement cette baisse de pouvoir d'achat, pour mettre davantage d'argent dans les caisses de l'État? Vous en débattez ce matin au 32-16 sur l'appli RMC. J'accueille Rémi au 32-16. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Comment ça va Rémi?
Ça va. Un petit peu énervé.
Ah, qu'est-ce qui vous énerve ce matin? Ce dont on parle à l'antenne?
Ah bah écoutez, on va nous faire croire que Total, qui nous donne 20 centimes par litre, il nous fait un cadeau mirobolant, quelque chose qui les met presque en banqueroute, les pauvres. Moi, j'étais inquiet pour eux ce matin quand je me suis levé.
C'est ironique, j'imagine.
Complètement. Alors, faut bien savoir que c'est 14 milliards de bénéfices en 2021, ce qui était déjà 40% de plus que 2019. Mmh. Là, on est le 28 ou le 29, je ne sais plus. Bref, ils ont annoncé fait 17 milliards d'euros de profit. 17. C'est-à-dire que là, ils ont déjà dépassé l'année dernière avec juste un tiers de l'année.
Donc, ils risquent effectivement de doubler leur profit d'ici à la fin de l'année.
Voilà.
Et ce n'est pas normal, selon vous?
Non, absolument pas. Ils versent la moitié à leurs actionnaires et avec 20 centimes à la pompe, on nous fait croire que c'est déjà qu'on ne devrait pas en demander plus. Mmh. Ils ont payé zéro impôt sur les sociétés en 2020 et en 2021. Zéro.
Oui, parce que c'est un mécanisme, simplement pour expliquer à nos auditeurs pourquoi ils n'ont pas payé d'impôts, c'est un mécanisme un peu particulier, hein. Ça dépend des investissements qui sont faits à l'étranger notamment, des pertes qui sont faites en France, et globalement, effectivement, Total fait en sorte de ne pas payer d'impôts en déclarant ses profits à l'étranger.
Des mécanismes particuliers pour les boîtes de cette envergure, vous remarquerez qu'il y en a des tonnes. Mais moi, si vous voulez, je suis indépendant et je vous assure que les mécanismes particuliers qui me permettent de garder la totalité de mon bénéfice et d'enfiler la moitié à l'actionnaire principal, Bibi.
Non, mais je ne justifiais pas effectivement ce mécanisme. J'expliquais simplement, Rémi, comment ça fonctionne.
Oui, bien sûr.
Effectivement, Total.
Oui, bien sûr. C'est pas du tout contre vous. J'explique pour que les gens qui m'entendent comprennent ce que je veux dire. Parce que là, on nous fait croire que pour 20 centimes, c'est un effort de folie, etc. Mais c'est une aumône. On est à la limite de la pitié là. Je veux dire, c'est pour garder le client, c'est pas pour redistribuer, c'est pas pour être juste, c'est même pas pour être honnête, c'est malhonnête. Les gens qui se contentent de 20 centimes n'ont pas compris ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Faudrait effectivement mettre en place cette taxe sur les super profits, c'est ça la solution ?
Mais bien sûr, entre autres, parce que je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est une boîte qui paye pas d'impôts ? Qui ne paye pas l'impôt sur les sociétés sous prétexte qu'elle a eu des pertes à l'étranger. Mais c'est une boîte française qui fait ses bénéfices.
Au siège. Des pertes en France, en l'occurrence, mais.
Oui, non, mais attendez, c'est pas de notre faute si eux, ils vont s'établir dans le monde entier, etc. Attendez, on va pas non plus payer les risques de leurs actionnaires, nous, non ? Parce que c'est ce qu'on paye, hein. Je veux dire, eux, ils prennent des risques partout dans le monde, en France, où ils veulent, ils font des pertes et c'est nous qui devons payer. Parce que les pauvres, ils ont trop d'impôts. On rigole.
Ouais. Et cette ristourne sur le carburant, elle devrait être plus élevée selon vous ? Combien ? C'est 50 centimes, 60 centimes ?
Très sincèrement, il ne devrait pas y avoir de ristourne parce que si ces boîtes-là étaient correctement imposées, on n'en aurait pas besoin parce qu'on pourrait redistribuer.
Ouais.
Okay. Voilà. C'est l'État qui pourrait la mettre en place, cette ristourne, s'il taxait correctement toutes les boîtes de cette envergure qui font n'importe quoi avec les impôts et qu'on laisse faire tranquillement. Parce qu'il n'y aurait pas besoin qu'ils nous fassent des ristournes, qu'ils nous fassent l'aumône. Moi, je ne demande pas aux gens de Total de décider de me faire un prix. Hein. Moi, je leur demande de payer ce qu'ils doivent, déjà. Et après, on va voir.
Ouais, donc vous faites partie effectivement de ceux qui considèrent que la petite ristourne, ça ne sert à rien. Il vaut mieux, j'allais dire, attaquer le problème un peu plus profondément et taxer carrément les super profits. Vous faites quoi dans la vie, Rémi ?
Du ménage.
D'accord. Donc j'imagine que vous prenez votre voiture tous les matins pour aller travailler.
J'ai ma journée la moitié dans la voiture.
Ça pèse vraiment sur le budget aujourd'hui, le carburant.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. N'importe quel auditeur qui conduit un peu sa voiture, il pourra vous le dire de toute façon.
Donc forcément, j'imagine que ça vous énerve, comme ça énerve beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent ce matin sur RMC Studio. Effectivement, sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio, je vais y arriver, c'est pas la même chose. Effectivement, ça peut paraître un petit peu incompréhensible à tous ces bénéfices, Total qui ne paye pas d'impôts en France. Voilà, qui fait cette ristourne, mais qui n'est donc pas suffisante selon vous, Rémi, on est bien d'accord.
Du tout.
Bon, je vous souhaite une très bonne journée, Rémi, un très bon week-end. J'espère que vous avez pris des vacances, vous avez cette chance ou pas ?
Pardon ?
Vous avez pris des vacances ?
Normalement, un petit peu au mois d'août, mais ce sera une semaine. Hein. Les indépendants, vous savez, c'est...
Bah ouais. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances en avance, même si c'est qu'une semaine, Rémi.
Merci beaucoup à vous aussi.
Bonne journée à vous, Rémi.
Merci, au revoir.
RMC s'engage pour vous tout de suite.
RMC s'engage pour vous.
Tout l'été, RMC continue de s'engager pour vous et on revient sur les histoires qui ont marqué cette saison. Ce matin, Johanna, vous nous reparlez d'Aline. Ses locataires ne payent plus de loyer depuis 2 ans. La justice avait ordonné leur expulsion il y a presque 1 an. Bonjour Johanna. Johanna, Aline vient seulement de récupérer ses clés apparemment.
Oui, après notre intervention, la préfecture s'était engagée pour une expulsion imminente au mois de mai. Elle a bien eu lieu, mais les locataires ont eu encore 2 mois pour reprendre leurs affaires. Et donc, c'est seulement la semaine dernière, après un ultime état des lieux, qu'Aline a pu enfin récupérer ses clés et retrouver son ancienne maison. Mais là, c'est le choc. Aline s'attendait à voir des dégâts dans son logement, mais ce qu'elle a vu l'a profondément bouleversée.
C'est l'apocalypse. Il y avait des poubelles partout, des vêtements sales, des excréments d'animaux qui jonchaient le sol, de la paille, une odeur, un mélange d'odeurs de moisi, de sale, de pourri, mais tout a été détruit. tout, tout. C'est horrible. Je me suis effondrée. Complètement. J'ai pleuré. Je me suis dit, mais comment on va faire? Comment je vais faire pour remettre ça à vider déjà? Vider toute cette crasse. Comment je vais faire?
Oui, on sent la détresse hein, chez Aline. Et justement, comment va-t-elle faire, Aline, pour remettre son logement en état?
Eh bien, un groupe Facebook qui s'appelle Aide pour Aline a été créé il y a quelques mois parce que sa situation a ému beaucoup de gens. Et quand Aline a parlé de l'état de la maison, une dizaine de personnes se sont manifestées. Ils ont organisé ce qu'ils appellent des commandos pour venir aider. Depuis le week-end dernier, ils viennent quasiment tous les jours. Aline est très émue face à cet élan de solidarité.
Samedi, à 8h30, on a eu du monde qui est arrivé de partout. Mais des gens qui ont même fait 50, 60 kilomètres pour venir nous aider. Et là, ils sont venus avec des outils, des pelles, des pioches, des remorques, des débroussailleurs. Nous, on avait amené le tracteur tondeuse et on a commencé à nettoyer le terrain. Et là, déjà, en une demi-heure, on va dire. Déjà, en une demi-heure, on a commencé à voir le changement. Ça donne un courage. Ça redonne foi en l'humanité. Je ne sais pas comment leur exprimer ma reconnaissance, mais à vie, vraiment.
Aujourd'hui, après une vingtaine d'allers-retours à la déchetterie, la maison est vidée. Maintenant, il reste à nettoyer et à réparer. Les travaux pourraient coûter 20 000 à 30 000 euros. C'est beaucoup pour Aline, qui doit aussi payer les frais d'huissier et d'avocat. Une cagnotte est en ligne sur le groupe Facebook.
Et on sent bien l'émotion d'Aline dans sa voix. Merci beaucoup, Johanna. Dans un instant, sur RMC, l'info, la météo et puis les pépites de Quentin. Vous êtes bien sur RMC, on revient dans une minute.
RMC. 5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonneau.
5h21 à la une ce matin, une annonce qui va faire du bien au porte-monnaie de près d'un million de consommateurs, 900 000 pour être précis. Engie va accorder en novembre une remise de 100 euros en moyenne à ses clients bénéficiaires du chèque énergie, mesure pour compenser l'inflation.
On voit bien que ce geste est une aumône. S'engager à faire un chèque de 100 euros quand on compare les bénéfices semestriels d'Engie, c'est presque considéré comme une provocation.
Jean-Yves Manot, président de la CLCV, Association Nationale de Consommateurs et d'Usagers. Vous l'entendrez dans le journal de 5h30. Le chemin de croix du texte sur le pouvoir d'achat après l'Assemblée et le Sénat. Le projet de loi est à nouveau détricoté. Les Républicains, pourtant majoritaires au Sénat, ont été mis en échec hier soir sur la revalorisation du RSA. Ils défendaient un amendement visant à réduire cette revalorisation. Amendement rejeté. En Ardèche, le feu est maîtrisé, mais 1200 hectares au total sont partis en fumée. Un homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Estelle Gasse, la météo.
Ce matin, quelques éclaircies sur le quart nord-ouest et puis dans l'après-midi, ce sera très nuageux avec de la pluie sur tout le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence, ainsi que sur la chaîne pyrénéenne. Des coups de tonnerre pourraient également tomber sur les Alpes et sur les Pyrénées dans l'après-midi. Il fait déjà entre 12 et 17 degrés ce matin sur la moitié nord et entre 13 et 24 sur le reste de la France. Cet après-midi, 23 au Havre, 28 à Orléans et à Lyon et jusqu'à 30 à Montpellier.
Merci Estelle, c'est l'heure de vous raconter nos pépites du jour.
Les insolites de Quentin.
Quentin Dubois, bonjour.
Bonjour Pierrick.
Alors ce matin, vous allez nous raconter l'histoire d'un petit farceur, hein, un jeune Toulousain de 17 ans qui a fait croire qu'il avait été recruté par le club de foot de sa ville comme professionnel. Eh oui, le TFC.
C'est ça,
Toulouse Football Club.
Lucas Fernandez, Toulousain de 17 ans, est en vacances en ce moment et décide d'accompagner un ami qui veut acheter le nouveau maillot du club au stade de Toulouse Football Club. À la base, il veut juste l'accompagner. Et puis, une fois devant le maillot, c'est dur de résister. Il passe à la caisse et en prend un aussi pour lui.
Jusque-là, tout va bien.
Après l'achat, ils vont se promener autour de l'enceinte du stade et se rendre compte qu'au niveau des tribunes au nord-sud, l'une des portes est ouverte. L'occasion est trop belle. Ils décident d'entrer et de prendre quelques photos sans trop traîner pour ne pas avoir de problème.
D'accord. À ce moment-là, je vois venir.
Ils croisent un employé plutôt sympa qui, au lieu de leur demander de quitter les lieux, leur permet de faire un petit tour de stade à condition de se tenir tranquille.
Bon, c'est plus un coup de chance pour de jolies photos jusque-là.
Oui, ils ont un stade rien que pour eux. Je vous laisse imaginer leur réaction. Ils sont comme des fous. Et là, ouais, leur vient une idée, simuler un futur transfert pour faire une petite blague aux copains et à un groupe de fans du club sur Instagram dont ils font partie. La séance photo avec le nouveau maillot commence, ils partagent les clichés et la magie opère. Lucas Fernandez a en fait un homonyme, Raphaël Fernandez, un jeune joueur qui évolue au Paris Saint-Germain.
Ah d'accord.
En voyant les photos de Lucas, les amateurs de foot, notamment à Toulouse, pensent qu'il s'agit de Raphaël, qui est lui donc en contrat avec le PSG jusqu'en 2024.
Ah oui, d'accord.
L'info a même été reprise par le site officiel des supporters du club lesviolets.com.
Mais ils se ressemblent les deux en fait ?
Oui, oui, il y a quand même un petit air de ressemblance.
D'accord.
Heureusement. Finalement, l'histoire donc a été vite démentie et le canular a pris fin. Le journaliste spécialiste de foot que l'on connaît bien sur RMC, Loïc Tanzi, a eu la confirmation que Raphaël Fernandez restait bien au PSG. Ah,
c'est remonté jusqu'à RMC, jusqu'au service des sports d'RMC, imaginez.
Il y a eu une vraie enquête. Hein. La carrière pro de Lucas aura quand même duré 5 heures et il a bien dû s'amuser en voyant l'évolution de sa blagounette sur Internet.
Bon, la blague a mieux marché que prévu et l'histoire s'est bien terminée finalement.
Plutôt bien, puisque mercredi dernier, le club qui officialisait son nouveau maillot extérieur a contacté Lucas. Il l'a invité à une séance photo. L'idée était de reproduire la même photo avec le second maillot et jouer à un jeu des 7 différences. Le maillot extérieur lui a été offert par le club. Il a pu voir de près le trophée de champion de France de Ligue 2 et il a même pris une photo, encore une, avec plusieurs joueurs du club qui sont venus à sa rencontre. Tout ça, cette fois-ci, il l'a fait de manière officielle. C'était plutôt une bonne semaine de vacances pour lui.
Bon, bah voilà. Pour les fans, les bonnes blagues, parfois, ça fonctionne. Merci beaucoup, Quentin. Vous restez avec nous. Je vais vous parler d'une lune de miel qui ne passe pas inaperçue dans la capitale depuis quelques jours. Des couples qui choisissent Paris pour passer leur lune de miel. Il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Chaque année, en général, ils ne sont pas suivis par une nuée de paparazzi, comme c'est le cas depuis le début de la semaine pour Bénifère, vous voyez de qui je parle ou pas ?
Non, je suis pas très people moi.
Bon, c'est le surnom du couple formé par Jennifer Lopez, J-Lo et Ben Affleck, les deux tourtereaux séparés, réconciliés et mariés depuis une semaine, jouent les touristes dans la capitale pour le plus grand bonheur des fans. Alors on sait absolument tout de leur lune de miel qui se déroule sous les yeux de tout le monde. Ils dorment à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, où les attendent toute la journée des dizaines de fans. On les a vus chez Bertillon, à la brasserie Lip ou encore chez Sephora. Et puis lundi, le couple le plus en vogue d'Hollywood a fait un arrêt inattendu chez Micromania, la célèbre chaîne de distribution de jeux vidéo dans le 17e arrondissement de Paris. Couple accompagné des deux filles de Ben Affleck et des deux enfants de J-Lo, ils ont passé une bonne demi-heure dans le magasin et sont ressortis avec un sac rempli de jeux vidéo. Sans doute pour occuper leur soirée parisienne. Oui, et quand le couple et leurs deux enfants, leurs quatre enfants même, se déplacent dans la capitale, vous ne pouvez pas les rater. Ils sont toujours accompagnés de leurs deux gardes du corps et de leur traductrice. On accueille le gagnant du jour.
RMC, la voix du jour.
Le premier gagnant du jour, en tout cas celui qui a été le plus rapide pour nous appeler, car il y a beaucoup de gagnants ce matin. David est l'heureux élu. Bonjour David.
Bonjour Pierre. Bon, ça va, le
vous pouvez rajouter un hic à Pierre. Moi c'est Pierrick.
Ah Pierrick. L'équipe remplaçante de Charlemagne.
C'est l'équipe B, effectivement, et je laisserai la place la semaine prochaine à Anaïs Castagna qui reviendra de vacances, que vous connaissez tous. David, vous nous appelez d'où exactement ?
Du Gers.
Bon, il fait beau dans le Gers, là, vous avez une idée du temps qu'il fait faire aujourd'hui ?
Je suis en train de voir des éclairs.
Ah bon, bah d'accord, il y a de l'orage. Bah, c'est ce que nous disait Estelle Gass, hein. La France est coupée en deux, donc il y a des orages. Allez, je vous fais réécouter la voix du jour et vous nous dites qui c'est.
Plutôt que de laisser filer les profits et de les taxer ensuite, nous avons préféré mettre les entreprises face à leurs responsabilités et obtenir des résultats concrets.
Alors, c'est qui, David ?
La première ministre, Elisabeth Borne.
Bravo David, c'était facile ce matin, mais bravo quand même, vous avez gagné un sac de plage, une crème protectrice et hydratante Caresse Source d'eau de Kérinès. Vous pourrez faire bronzette comme ça cet été. Merci beaucoup, très bonne.
Par contre, Estelle Diaz pourrait venir me masser.
Pardon ?
Estelle Diaz pourrait venir me masser.
Alors ça, ça vous concerne, faites ce que vous voulez. D'accord.
Et par contre, j'ai un petit message.
Allez-y, très vite, David.
Par contre, quand j'entends, il faudrait qu'elle soit un peu plus à l'écoute, la première ministre, des gens qui travaillent, et un peu plus de rélevation de salaire, vu le gouvernement pour effectuer pour les travailleurs.
Bon,
il faudrait arrêter de donner à ceux qui n'écoutent rien.
Vos deux messages sont passés, David, ce matin. Deux messages radicalement différents, mais on a bien compris. Merci beaucoup. Dans un instant, la météo journal.
RMC. 5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonneau.
Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Pierrick, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin, le coup de pouce, ce coup de pouce d'ailleurs pour les clients d'Engie.
Le fournisseur de gaz et d'électricité verte annonce 100 euros de remise pour ses clients les plus modestes, remise appliquée dès le mois de novembre. Les incendies dans le sud de la France et les aveux d'un sapeur-pompier volontaire. Il reconnaît être l'auteur de plusieurs de ces incendies dans l'Hérault, motivés par l'adrénaline et l'excitation des flammes. Et puis sixième étape du Tour de France féminin, aujourd'hui entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim. Et on reviendra dans ce journal sur l'étape d'hier marquée par une chute collective très impressionnante.
Vous bénéficiez du chèque énergie mis en place par le gouvernement. Eh bien, cette nouvelle aide vous concerne. Engie fait un geste avec une remise complémentaire pour ses clients.
Une remise de 100 euros en moyenne par client appliquée en novembre. C'est ce qu'annonce Catherine McGregor, la directrice générale du groupe, dans les colonnes du Parisien ce matin. Au total, ce sont 880 000 clients qui sont concernés. Un coup de pouce, certes, mais qui intervient en pleine polémique sur les super profits et leur taxation. Réaction de Jean-Yves Manot, le président de la CLC. CV, Association Nationale de Consommateurs et d'Usagers, il n'est pas convaincu par ce coup de pouce.
On voit bien que ce geste est une aumône et qui n'est pas à la hauteur des enjeux, des difficultés financières des Français, des clients d'Engie. S'engager à faire un chèque de 100 euros pour les titulaires du chèque énergie qui sont clients d'Engie en gaz ou en électricité pour un coût global de 90 millions d'euros. Quand on compare dans la même annonce les bénéfices semestriels à hauteur de 3 milliards d'Engie, c'est presque considéré comme une provocation, me semble-t-il, par l'ensemble des citoyens.
Et c'est dans ce contexte que les chiffres de l'inflation pour le mois de juillet sont publiés ce matin. Pour rappel, en juin, les prix ont augmenté de 5,8% sur un an.
Direction l'Ardèche, Stéphane, où l'incendie qui touche le massif de Jastre depuis mercredi est désormais fixé.
1200 hectares partis en fumée, 400 pompiers toujours mobilisés. Toutes les personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. Un homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Dans l'Hérault, l'homme qui était soupçonné quant à lui d'être à l'origine des feux de fin mai autour de Saint-Privat est passé aux aveux. Il affirme même être l'auteur de plusieurs autres incendies lors des trois dernières semaines dans le département. Il s'agit d'un sapeur-pompier volontaire et dans son village d'origine à Saint-Jean-de-la-Blaquière, c'est évidemment l'émoi et la surprise.
Et je suis très étonné que ce soit ce garçon, en plus pompier, élu à Saint-Jean, très très étonné. C'est quelqu'un de discret, même timide, très poli et tout, et je ne comprends pas les raisons qui l'ont poussé à faire ça.
Ça a choqué tout le monde, mais bon, on est très content d'avoir attrapé le criminel, quoi. Mais on s'est inquiété pour l'habitation, pour les vignes. Moi, je suis vigneron. C'est affreux, quoi, des gens qui mettent feu comme ça, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres.
Et toujours au chapitre judiciaire, l'heure est aux procédures disciplinaires après l'agression mortelle d'Ivan Colonna dans la maison centrale d'Arles. C'était il y a pratiquement 5 mois.
Un rapport de l'inspection générale de la justice pointe du doigt des défaillances dans la sécurité de l'indépendantiste corse. 2 sanctions individuelles contre 2 agents sont donc étudiées. Et pour Benjamin Marou, secrétaire général adjoint du syndicat UFAPUNSA, syndicat majoritaire de l'administration pénitentiaire, ces sanctions sont tout bonnement absurdes.
La vigilance active, c'est un bien grand mot. Un agent ne peut pas rester derrière toutes les portes qui composent son secteur d'hébergement ou d'activité et à surveiller chaque détenu pendant toute la durée de sa faction. C'est juste pas possible. Mais l'autre agent mis en cause, je vois qu'à un moment donné, alors on parle de vidéosurveillance, les postes de vidéosurveillance, il y a énormément d'écrans. Il y en a un qu'on appelle le poste de contrôle et d'information où il y a 290 caméras reportées sur les écrans. Donc, c'est juste pas possible de tout surveiller au même moment. Je veux dire, humainement, même si on est un, si on est 2 agents, c'est juste pas possible, quoi.
5h35, Stéphane Genest, la politique à présent est le Rassemblement National qui a un nouveau candidat pour sa présidence.
Il s'agit de Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui va donc faire face au président par intérim actuellement, hein, Jordan Bardella. Le RN qui, au printemps dernier, dénonçait vigoureusement l'usage par le gouvernement de cabinets de conseil comme celui de McKinsey qui a secoué la campagne d'Emmanuel Macron en avril dernier. Eh bien hier, Marion Tessen, le gouvernement a serré un peu plus la vis pour en limiter ou du moins en encadrer l'usage.
Tout d'abord, l'État souhaite être transparent au sujet des missions de conseil. La nature de chaque prestation devra être publiée, sauf dans certains cas particuliers, notamment en ce qui concerne les questions de défense. Autre annonce, les dépenses seront limitées. L'État souhaite les réduire à 150 millions d'euros par an entre 2023 et 2027 et instaurer un plafond à 2 millions d'euros par prestation, un seuil jugé trop élevé par certaines associations comme ATTAC, qui rappelle qu'en 2021, elle s'élevait en règle générale à quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Autre mesure, le ministre Stanislas Guérini veut limiter le recours aux mêmes prestataires privés à un maximum de 2 contrats consécutifs.
Une précision signée Marine Tyson pour RMC.
Il s'appelle Hassan Iqiyoussen. C'est un imam installé dans le nord de la France, imam qui va être expulsé du territoire.
C'est Gérald Darmanin en personne qui l'a annoncé. Le ministre de l'Intérieur qui estime que cet imam tient des propos qui vont à l'encontre des valeurs de la France. Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy, salue cette décision.
Cet homme, il est l'un des plus influents frères musulmans en France. Il incarne le séparatisme, il incarne l'islam politique, la confrontation, il incarne l'importation au conflit israélo-palestinien. Tout ce, malheureusement, ce discours de l'islam politique, il est incarné dans le personnage de Hassan Iqiyoussen. Mais la seule chose, je le demande, il y a des dizaines comme Hassan Iqiyoussen, il existe. Ils sont formés par l'USH. Institut de formation des frères musulmans. C'est là la décision, c'est là la vision, il faut parler, la question, quand on aura le courage comme celui-là pour vraiment libérer l'islam de l'islamisme.
Et on termine avec le Tour de France féminin et cette image qui a marqué les esprits hier, vous l'avez peut-être vu, cette gigantesque chute collective lors de la 5e étape.
Et Valentin Jamin, c'est un phénomène qui se répète et qui fatigue le peloton.
C'est une image malheureusement déjà vue sur ce tour. Hier, à 45 km de l'arrivée, une trentaine de vélos sont au sol, en pagaille sur toute la largeur de la route. Des coureuses se relèvent difficilement, grimacent et repartent. Parmi elles, la Française Anaïs Morichon.
Il y a une fille devant moi qui s'est décalée, qui était en train de boire, elle s'est pris un trou, je sais pas trop. Du coup, j'ai rien pu faire, je me suis empilée sur elle et puis derrière, ça s'est empilée sur moi, quoi, j'ai rien pu faire. Un peu égratigné, mais c'est bon, j'ai rien cassé, donc ça va.
Des coureuses avaient déjà regretté les nombreuses chutes et cette pression constante. Marta Cavalli, une des favorites, a dû abandonner dès la deuxième étape. Pour Marie Lenette de FDJ, tout cela est lié à la grandeur de l'événement.
C'est l'une des courses où il y a eu le plus de tension. Là, c'est vraiment impressionnant. C'est très dur de se placer dans le peloton. C'est très nerveux, ça frotte. Et après, il y a aussi une différence de niveau. Ça se traduit comme ça.
Dans les voitures, les directeurs sportifs s'inquiètent. Celui de Cofidis, Gaël Lebellec, évoque aussi la fatigue.
On arrive aussi au 5e jour de course. Il y a un petit manque de lucidité aussi, je pense. Toutes les filles n'ont pas l'habitude de faire des courses de ce niveau-là. Donc, des petites fautes d'inattention, des petits détails qui font qu'il y a des conséquences.
Depuis le départ, 11 coureuses ont déjà abandonné sur ce tour.
Valentin Jamin pour RMC, aujourd'hui 6e étape, 129 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim. Et c'est toujours la néerlandaise Marianne Vos qui porte le maillot jaune.
Les courses, c'est à Cabourg ce soir, 20h15.
Et on se donne rendez-vous sur RMC Découverte pour les suivre. Voici le pronostic de Mathieu Zaccanini de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 11, Ghostbuster. Son outsider, c'est le numéro 10, Forever JL. Le 11 et le 10.
Merci Stéphane Genèse. Bientôt 5h40, c'est l'heure de la Story Sport et on va parler...
La Story Sport.
Vous me laissez pas finir. C'est toujours la même chose. Bonjour Cédric Dandeville.
Salut Pierrick.
Grosse inquiétude autour d'un champion du monde français. Paul Pogba est blessé. Il pourrait rater la prochaine Coupe du Monde au Qatar l'hiver prochain.
À peine arrivé, déjà absent, il y a quelques jours, la Juventus de Turin célébrait le retour de Paul Pogba. Un comeback tonitruant à grands coups de teaser sur les réseaux sociaux du club italien.
You ready?
Ah oui, gros teaser. Hein.
Ouais, ça c'était le 11 juillet, donc avec un Pogba évidemment plein de sourires et plein d'ambition.
As you can see, I'm back.
Comme vous le voyez, je suis de retour. Je suis très heureux. Je suis impatient de reprendre avec vous et de gagner encore des trophées. On se retrouve sur le terrain, au stade.
Back to back.
Voilà, aujourd'hui, ce Pogba tourne au Pog Poisse, Los Angeles, le week-end dernier. En match amical de préparation, Pogba joue ses 45 premières minutes avec ses nouveaux coéquipiers. Le lendemain, patatras, le Français se blesse tout seul à l'entraînement, des douleurs au genou droit.
Et c'est grave, docteur?
Lundi, la Juve annonce une lésion du ménisque extérieur. En cas d'opération, la convalescence pourrait prendre des mois, d'où la crainte d'un forfait pour le Mondial en novembre.
Et ce serait une très mauvaise nouvelle pour les Bleus.
Eh bien, il y a débat dans l'afterfoot, notamment hier soir.
Didier Deschamps, il ne va pas prendre un joueur qui n'est pas à 100% quand même pour la Coupe du Monde. Ça paraît improbable.
Oui, alors peut-être que ça va résoudre un problème de Deschamps.
Ah, et cette blessure, tu veux dire, ça pourrait forcer le fait qu'il ne le sélectionne pas.
Et oui, pour Deschamps, cette blessure pourrait être un bon prétexte de ne pas faire appel à Pogba, qui n'est plus à son meilleur niveau depuis bien longtemps. La faute notamment à des blessures à répétition, malléole, cheville, ischio, mollet et aujourd'hui donc genou.
Et malgré tout, Pogba, ça reste une star.
Oui, mais plus sur les réseaux que sur les terrains, diront certains comme Daniel Riolo.
C'est ce que j'appelle le nouveau football qui est révélé. Ce que fait un joueur à un moment donné, ou son statut, ou ce qu'il est en termes de communication ou de valeur sur les réseaux sociaux, suffit à focaliser une attention ou à maintenir une aura autour d'eux. Puis si, depuis 5 ans, il n'a pas été bon, c'est pas forcément un problème, parce qu'entre-temps, il a entretenu sa personnalité sur les réseaux, parce qu'en vacances, il a fait un truc qui était kiffant.
Bon là, rien de kiffant hein, pour Pogba, vous l'avez compris. Il est rentré en Italie pour subir d'autres examens médicaux. On va attendre les nouvelles sur Insta ou TikTok. Hein, donc.
Merci Cédric Bandeville, c'était la Story Sport.
RMC, Charles Matin.
5h42, vous nous appelez au 32-16. On parle des super profits et des bénéfices de Total ce matin. Et puis de la publicité lumineuse la nuit, bientôt totalement interdite en France. C'est l'un des volets du plan de sobriété énergétique voulu par le gouvernement. Les écrans publicitaires numériques, les vitrines illuminées, les néons éclairant les enseignes des magasins, tout devra être éteint dans toutes les villes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, car depuis plusieurs années, la publicité lumineuse était en fait déjà interdite entre 1h et 6h du matin, mais uniquement dans les villes de moins de 800 000 habitants, sauf que la réglementation n'est pas toujours respectée. Alors certains éteignent la lumière à la place des commerçants. Caroline Philippe et Bettina de Guglielmo ont suivi cette nuit dans les rues de Paris des Yamakasi de l'écologie.
Tu veux prendre lequel ?
Agrippé à la façade, Kevin et Dali appuient chacun sur un interrupteur.
Allez, vous êtes prêts ?
En une seconde, la bijouterie de luxe est plongée dans le noir.
C'est une session dans laquelle on cherche à éteindre les lumières et à sensibiliser les gens à l'écologie et dire que tout le monde peut avoir un impact positif à son échelle.
Ils sont 6, tous férus d'acrobatie et d'escalade. Le plus âgé a 36 ans, le plus jeune, Baptiste, 18.
J'essaie de me rendre utile, de me donner un peu, et puis c'est marrant, on passe une bonne soirée avec les amis. C'est pas moi, mon action personnelle qui change le monde en fait, c'est vraiment que ça soit vu et que les gens soutiennent pour qu'ensuite des décisions soient prises.
Dans la rue, la plupart des passants les encouragent. Junior s'arrête les féliciter.
Ce qu'il vient de faire, c'est plutôt symbolique. Hein. C'est un premier pas, en fait. Après, peut-être que d'autres enseignes comprendront que, ben, effectivement, ça n'a aucune utilité de faire briller ce genre de choses la nuit, vu que la nuit, ben, c'est fermé et personne ne compte rentrer à l'intérieur.
Inspirer les commerçants, mais aussi le gouvernement, qui planche sur un décret pour généraliser l'interdiction de ces enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin. De quoi encourager Kevin.
Je suis quand même assez positif par rapport au fait que le gouvernement fasse quelque chose. J'ai qu'une envie, c'est de voir si vraiment ce sera appliqué. C'est surtout maintenant le rôle des commerçants de vraiment se prêter au jeu. Que ce soit la loi ou nos actions citoyennes, derrière ceux qui respectent et qui décident de faire quelque chose, c'est des commerçants qui ont les clés en main.
Selon le ministère de la Transition énergétique, éteindre ces enseignes la nuit permettrait d'économiser l'équivalent de la consommation électrique moyenne de 110 000 foyers par an.
Et vous nous appelez au 32-16 pour réagir. Faut-il sévèrement punir les commerces récalcitrants ? Ce que propose d'ailleurs le gouvernement, l'amende passera d'une contravention de 750 euros à une contravention de 1 500 euros avec ce nouveau décret. Mais est-ce que c'est suffisant ? Le 32-16, l'appli RMC, onglet direct studio. J'accueille Frédéric, justement, au 32-16. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierrick. J'appelle au sujet de la surtaxation qui est demandée par mes
La question du jour, effectivement. Allez-y.
Voilà.
Vous nous appelez de Montreuil, c'est ça ?
Ouais, je suis résident de Montreuil, tout à fait.
Dites-nous ce que vous en pensez de cette surtaxation des super profits.
Alors, dans un premier
exclu
temps,
par le gouvernement pour l'instant, je précise.
Ouais, bien sûr. Dans un premier temps, je salue tous mes collègues de la JET Île-de-France Nord, notamment le site de Compiègne. Ça, c'est la première chose de tête. Dans un deuxième temps, je pense que ça correspond encore une fois à une fausse bonne idée. Parce que la taxation, c'est un sport national, on est les rois de la taxation, on propose des taxes sur tout, et notamment là, au sujet des profiteurs de guerre, etc. Mais les profiteurs de guerre, on les découvre pas, ça a toujours existé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le gouvernement et M. Macron a décidé de ne pas surtaxer, deuxièmement. Et troisièmement, cette surtaxation, comme les taxes et les revenus qui sont générés par les taxes pour le gouvernement et pour l'État ne sont pas fléchés, on ne sait pas où l'argent va. La problématique, c'est ça, je crois. Je pense qu'il serait plus pertinent.
Ça veut dire que vous craignez en fait que ces taxes se perdent dans les méandres.
Mais allez. C'est comme toujours. Comme toujours, le fléchage n'est jamais identifié. On ne sait jamais où l'argent va. On sait qu'une taxation est préconisée. Une fois que la taxe est prélevée, l'argent, elle va où ?
Mais si on taxe par exemple pour le pouvoir d'achat des Français et qu'on dit clairement, cette taxation des super profits, elle ira directement pour protéger le pouvoir d'achat des Français.
Moi, je pense, si si vous permettez, ce qui serait beaucoup plus pertinent, c'est de contraindre ou d'inciter grandement ces grandes entreprises profiteuses de guerre à favoriser la transition écologique par des investissements véritables, qui seraient pour le coup identifiables assez rapidement.
Mais est-ce que l'incitation fonctionne, Frédéric ?
Je pense que l'incitation fonctionnerait véritablement si elle était contraignante. C'est tout ça, c'est de la sémantique, hein, c'est sur les mots qu'on joue, mais vraiment une contrainte véritable pour favoriser, pour investir dans la transition écologique suite à ces surprofits de ces profiteurs de guerre. Parce que on s'entend tous sur cette réalité-là. Ces grandes entreprises sont des fleurons de l'industrie française et profitent de la guerre. On est d'accord, ça, on est tous d'accord là-dessus. Comment fait-on pour que ces gens-là, ces entreprises-là, soient véritablement, intégrées à l'effort national pour la transition écologique? Et à mon avis, ça pourrait permettre d'accepter davantage ces super profits et de réunir à nouveau les Français autour d'un projet commun.
Une incitation contraignante, donc, Frédéric. J'aimerais simplement demander à Yves, qui nous appelle de la Sarthe, ce qu'il en pense. Bonjour Yves.
Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour Pierrick.
Ce que Frédéric vient de dire, ça fait écho, ça vous parle ?
Frédéric a des arguments très bons. Moi, je voudrais quand même préciser en préambule que je suis un retraité, ni encarté, ni de droite, ni de gauche. Simplement, je me considère comme un observateur indépendant,
d'accord,
espèce de sage de l'actualité.
Et qu'est-ce que vous observez du coup là aujourd'hui ?
Faut-il taxer Total les super profits ? Je dis non. Je dis non parce que les activités de Total Énergie, on le dit pas assez, c'est la production pétrolière, c'est le gaz, c'est le solaire, c'est le biocarburant, c'est l'énergie renouvelable. Je suis pas un ancien salarié de pétrole, de Total Énergie. C'est aussi des fondations au niveau
donc
de la
des actions mondiale, bénéfiques.
C'est aussi des programmes d'éducation, d'insertion des jeunes. Moi, je dis simplement, c'est ce que j'ai dit au Standard, en fait, celui qui pompe le plus, c'est pas les actionnaires, c'est l'État. C'est l'État. 67 à 68% entre le sans-plomb et le gasoil. Voilà.
Donc il y a trop de taxes de l'État. Ouais, selon vous, le profiteur, effectivement, c'est pas Total. Frédéric ?
Oui.
Vous en pensez quoi de ça ?
Je pense que le véritable profiteur, les profiteurs de guerre, c'est les grandes entreprises qui bénéficient de ces super profits, ça c'est une certitude.
D'accord.
L'État, quant à lui, il y a une...
Mais effectivement, ce que nous dit Yves, c'est que 60% de taxes dans les poches de l'État, pas dans les poches de Total.
La grande hypocrisie, c'est toujours le grand paradoxe. C'est-à-dire qu'on accuse l'entreprise de faire des surprofits, etc., au bénéfice de la guerre, en oubliant, en occultant, et là, l'interlocuteur a tout à fait raison, en occultant le rôle de l'État dans la taxation des biens de consommation courants. Néanmoins, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse tous ensemble autrement. J'ai envie de prendre une métaphore. Lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. À un moment donné, il faudrait se poser les bonnes questions.
Et il faudrait selon vous réfléchir cette taxation qui vient dans les poches de l'État vers des mesures pouvoir d'achat par exemple.
Frédéric, bravo pour la métaphore. Oui, absolument. Moi, je pense que l'État aurait pu faire un geste diminuer la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, un geste symbolique temporaire. Je pense que ça aurait eu plus un effet très populaire. Et puis peut-être que en final, l'État se serait retrouvé parce que les gens auraient repris leur voiture, auraient reconsommé. Vous voyez ce que ça serait reparti dans la consommation populaire.
Donc
générale.
Ça aurait été effectivement bénéfique, ce serait reparti dans le circuit de l'économie. Merci à vous deux, merci Frédéric et Yves d'avoir participé au débat au 32-16 ce matin. Débat qui se poursuit toute la matinée sur RMC. Dans un instant, c'est l'été d'Angèle. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Pierrick, bonjour.
Vous deux parlez de quoi ce matin ?
Ben écoutez, à minuit pile, il y a le nouvel album de Beyoncé.
Oh là là là.
Qui est sorti, très attendu, donc on va le décortiquer ensemble.
Ça va twerker, à tout de suite.
RMC.
5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonneau.
5h52, le feu est maîtrisé ce matin en Ardèche, mais 1200 hectares sont partis en fumée. Un homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Une annonce qui va faire du bien au porte-monnaie de près d'un million de consommateurs, 900 000 pour être précis. Engie va accorder en novembre une remise de 100 euros en moyenne à ses clients qui bénéficient du chèque énergie. Et puis nous entrons dans un week-end de chasse et croisée. Attention, si vous devez prendre la route dans les prochaines heures, c'est rouge dans le sens des départs aujourd'hui, noir demain sur l'ensemble du territoire. Ça devrait rouler un peu mieux dans le sens des retours. La météo est Elias.
Quelques éclaircies sur le quart nord-ouest et sur le reste de la France. Le ciel sera couvert avec des risques d'averses et d'orages sur la moitié sud et l'est. Il fait déjà entre 12 et 17 degrés ce matin sur la moitié nord et entre 13 et 24 sur le reste de la France. On attend 23 au Havre, 28 à Orléans et jusqu'à 30 à Montpellier.
C'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Angèle Châtelier, vous êtes arrivée tôt ce matin pour être parmi les premiers et les premières à nous faire écouter un album attendu qui vient de sortir, celui de Beyoncé.
Et oui, il a été publié à minuit pile, un album appelé Renaissance. Et je peux vous dire que la sortie d'un album de Beyoncé est toujours un phénomène, d'autant que 6 ans séparent Renaissance de Lemonade, son précédent album. Et c'est énorme dans le monde de la pop, 6 ans. Alors les seules choses que l'on savait jusque-là de cet album Renaissance, c'était sa pochette, une Beyoncé à califourchon sur un cheval lumineux. Et puis cette chanson très house, Break My Soul. Alors Queen Bee, comme on l'appelle, est de retour. Ce nouvel album lui porte bien son nom, Renaissance, qui lui a permis, dit-elle, de traverser la période difficile du Covid, loin de la scène et de son public, et de trouver son échappatoire. Mais alors, trouver son échappatoire, c'est aussi lorsqu'on étouffe et que l'on en a besoin. Alors que son tube Break My Soul incitait à quitter son job si l'on n'en est pas heureux, America Has a Problem est explicite.
On sent bien la patte Beyoncé.
Oui, hein, c'est vrai, musicalement, vous l'entendez, il y a évidemment ses éternelles envolées vocales. Mais ce qui est dingue dans cet album, c'est à quel point la chanteuse mélange tous les genres, de la house, un autre qui rappelle les titres les plus sombres de Billie Eilish dans le ton, des chansons plus pop. Et il y a aussi des morceaux plus rappés, comme Church Girl.
Church Girl, qu'on traduirait par la fille de l'église.
Voilà, exactement. Que dire aussi de Move, sorte de dance trap complètement grisante. Le nouvel album Renaissance, c'est en tout 16 titres qui finissent d'asseoir la réputation de Beyoncé, que l'on ne surnomme pas Queen Bee par hasard. Une queen aussi qui a voulu faire les choses bien, enquêter sur tous ceux avec qui elle collabore pour s'assurer qu'aucun ne soit un agresseur ou harceleur sexuel. On retrouve par exemple des duos avec Nile Rodgers, Drake, son mari Jay-Z, de grands noms de l'électro, les plus prestigieux producteurs. Elle revisite Donna Summer et d'autres. Renaissance donc prouve une nouvelle fois la grandeur et la splendeur de Beyoncé, un album sensationnel qui fait appel à tous nos sens et toutes nos émotions.
C'est smooth, hein, ça, Angèle Châtelier.
On
aurait envie de l'écouter toute la matinée, mais.
Faites donc ça.
Ben oui, mais il va falloir. Et d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle qu'on retrouve Sébastien Krebs. Bonjour, Sébastien.
Salut Pierrick Bonneau, salut Angèle Châtelier, ça va?
C'est jamais une obligation de vous retrouver. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on aurait bien écouté Beyoncé un peu plus longtemps.
On va les réécouter un peu plus tard dans le courant de cette matinale. Partez pas en vacances tout de suite, Pierrick, vous me rejoignez évidemment.
Promis.
Mais je sais que vous êtes très en forme parce que là, les vacances n'ont jamais été aussi proches.
C'est vrai, ça fait du bien. À tout de suite.
Quelle chance, à tout de suite sur RMC.